monde il est beau, tout le monde il est gentil.
Bonjour tout le monde. Après une brève période de flottement liée à des problèmes d'organisation et pour laquelle nous vous prions de nous excuser, Le Monde est beau reprend le cours de ses émissions. Cependant, certains changements sont opérés, ceci en égard autant à la situation actuelle de l'initiative à laquelle notre thématique a été jusqu'ici consacrée qu'à celle de crise sanitaire à laquelle le monde, plus ou moins beau, est actuellement confronté. Le bref préambule qui suit vous éclairera à ce sujet. À l'instar de nos décideurs politiques, qui ne cessent d'atermoyer au sujet de l'initiative pour des multinationales responsables, Le Monde est beau propose un égal atermoiement de sa thématique. Histoire, principalement, de ne pas user inutilement de ses forces et de celles de ses collaborations, afin d'éviter de se retrouver exténué à un moment où il serait éventuellement nécessaire de faire preuve, comme le disent les managers, de réactivité et de compétitivité en cas de remobilisation subite de la part du monde politique sur ce sujet. Nous poursuivrons donc notre émission sur une thématique plus globale, dont le titre évoque le sujet, en proposant des lectures d'articles du Monde diplomatique et d'autres sources critiques sur de multiples objets de critique, tous en relation avec des courants de mécontentement et des critiques récurrentes adressées à la structure sociale dominante. La cause du coronavirus venue se greffer à notre décision, il nous apparaît d'autant plus important de ne pas relâcher notre attention au sujet de ces divers courants de mécontentement, ceux-ci souffrant désormais, comme tout le monde, d'une réduction des libertés publiques et donc d'expression, cette réduction liée aux mesures de confinement, mesures qui, en la circonstance, ne souffrent évidemment aucune critique sérieuse et objective en cette matière. Mais au-delà de cette réalité temporelle, et certes sévère, dans le contexte de crise sanitaire mondiale, il reste sans doute important de maintenir l'existence d'une voix critique plurielle, montant en puissance jusqu'ici et brusquement interrompue par la circonstance, ceci afin de continuer de mobiliser une attention vigilante dans l'évolution de cette crise jusqu'à son terme éventuel. Moment où il s'agira justement d'être en mesure d'influer sur le cours d'un redémarrage économique auquel on nous rend déjà dès à présent très attentifs. Effectivement, à ce sujet, il faudra se souvenir que si, dès le départ de cette crise, on nous a signifié l'existence d'un monde d'avant le coronavirus, suggérant par là qu'il ne sera plus le même après, il reste à savoir dans quelle mesure il restera possible pour les populations d'agir sur cet après le coronavirus. Car il faut se souvenir également que la formule n'est pas nouvelle, qu'il y a eu un monde d'après le 11 septembre 2001, qu'il y a eu également un monde d'après la crise économique mondiale de 2008 et qu'après avoir renfloué les responsables économiques de cette crise, l'économie n'est toutefois pas arrivée florissante aux portes de cette crise sanitaire. Chose que l'on sera peut-être tenté de nous faire croire quand il s'agira de renflouer cette même économie au motif que, d'une santé à toute épreuve à l'arrivée du fléau, il ne faudra voir dans son essoufflement que des causes liées aux effets de ralentissement de la crise du coronavirus. Pour ces raisons, et d'autres à venir peut-être, nous tenterons, et dans la mesure de nos possibilités, de nourrir cette nouvelle thématique. Certaines nouvelles contraintes pratiques nous invitent à la prudence concernant nos possibilités d'organisation, de production et de diffusion. Nous opterons donc, dans cette perspective, pour un programme de diffusion plus souple et, corrélativement, plus irrégulier. Nos billets n'étant plus diffusés dans le cadre du grand direct de Radio Django, désormais lui-même sorti de son contexte régulier des mardis, nos billets apparaîtront de façon irrégulière uniquement en podcast.
Pour qualifier les tribus dites sauvages, certains, et ils sont sans doute encore nombreux, les désignent sous des formes d'organisation sociale déplorables, voire barbares, où l'absence totale de connaissances scientifiques les amène à des appréhensions superstitieuses des fondements de la vie. Ces peuplades ne seraient animées que par des intuitions obscures, religieuses ou animistes, pour se forger une idée du monde invisible et sensible. L'esprit étriqué de leur vision du monde les amènerait, de plus, à considérer la Terre comme un espace de ressources limitées et souvent réduit à la connaissance de leur territoire environnant. Mais alors, que dire de notre modèle civilisé qui nous amène à considérer notre planète comme un simple champ d'exploitation pour ressources humaines et qu'au détriment de toute logique, nous tenons ce champ comme étant illimité? Que dire également au sujet de son appréhension du monde invisible quand sa logique scientifique, là aussi, l'amène à le découvrir à seule vertu d'être exploité, et où cet air que nous respirons, sans le voir pourtant, en arrive lui aussi à être considéré comme un espace d'exploitation, matériellement inexistant et pourtant pollué de mille façons, est devenu surtout le vecteur de nos âneries en continu. Celui donc de communication interrompue au sujet d'une connaissance du monde et de la vie et que nous ignorons superbement en en bafouant les principes d'existence élémentaire. Que dire de cette civilisation où le monde sensible, comme on dit volontiers, se réduit à cette nouvelle vision, division devrais-je dire, de courants philosophiques multiples qui, pour la plupart, se perdent dans des conjectures de plus en plus abstraites, faisant de l'abstraction la solution, plutôt qu'à admettre les limites, là aussi, de notre compréhension et à ramener la philosophie un tant soit peu dans le champ d'une éthique comportementale vécue au quotidien et dans la réalité concrète de nos rapports les uns envers les autres. Que dire, en somme, d'une civilisation où toute méditation, toute réflexion qui ne répondrait pas à des notions de concept, d'exploration méthodique, argumentée de preuves rationnelles et, au reste, invérifiables, la plupart du temps dans le champ du monde réel? Que dire de ce monde-là, qui parvient à nier son propre réel, incarné pour tenter de réaménager le vivant dans le concept de l'immatériel? Que dire si ce n'est qu'il est devenu fou allié et n'est plus animé d'aucune forme de vie digne de ce nom? Mais il existe encore, et fort heureusement, des esprits qui, tentant de résister, produisent des efforts de réflexion qui s'efforcent de replacer la nature dans un contexte où, respectée, elle deviendrait notre protectrice, plutôt que l'adversaire à maîtriser. C'est le cas de ce billet, lu par Fabio Cattaneo, intitulé « Contre les pandémies, l'écologie », écrit par Sonia Cha et paru dans Le Monde diplomatique de mars 2020.
Serait-ce un pangolin, une chauve-souris ou même un serpent, comme on a pu l'entendre un temps avant que cela ne soit démenti? C'est à qui sera le premier à incriminer l'animal sauvage à l'origine de ce coronavirus, officiellement appelé Covid-19, dont le piège s'est refermé sur plusieurs centaines de millions de personnes placées en quarantaine ou retranchées derrière les cordons sanitaires en Chine et dans d'autres pays. S'il est primordial d'élucider ce mystère, de telles spéculations nous empêchent de voir que notre vulnérabilité croissante face aux pandémies a une cause plus profonde, la destruction accélérée des habitats. Depuis 1940, des centaines de microbes pathogènes sont apparus ou réapparus dans des régions où, parfois, ils n'avaient jamais été observés auparavant. C'est le cas du virus de l'immunodéficience humaine, VIH, d'Ebola en Afrique de l'Ouest ou encore de Zika sur le continent américain. La majorité d'entre eux, le 60%, sont d'origine animale. Certains proviennent d'animaux domestiques ou d'élevage, mais la plupart, plus de 2/3, sont issus d'animaux sauvages. Or, ces derniers n'y sont pour rien. En dépit des articles qui photographiaient l'appui désigne la faune sauvage comme le point de départ d'épidémies dévastatrices, il est faux de croire que ces animaux sont particulièrement infestés d'agents pathogènes mortels prêts à nous contaminer. En réalité, la plus grande partie de leurs microbes vivent en eux sans leur faire aucun mal. Le problème est ailleurs. Avec la déforestation, l'urbanisation et l'industrialisation effrénée, nous avons offert à ces microbes des moyens d'arriver jusqu'au corps humain et de s'adapter. La destruction des habitats menace d'extinction quantité d'espèces, parmi lesquelles des plantes médicinales et des animaux sur lesquels notre pharmacopée a toujours reposé. Quant à celles qui survivent, elles n'ont d'autre choix que de se rabattre sur les portions d'habitat réduites que leur laissent les implantations humaines. Il en résulte une probabilité accrue de contacts proches et répétés avec l'homme, lesquels permettent aux microbes de passer dans notre corps ou, de bénin, ils deviennent des agents pathogènes meurtriers. Ebola l'illustre bien. Une étude menée en 2017 a révélé que les apparitions du virus, dont la source a été localisée chez diverses espèces de chauves-souris, sont plus fréquentes dans les zones d'Afrique centrale et de l'Ouest qui ont récemment subi des déforestations. Lorsqu'on abat leurs forêts, on contraint les chauves-souris à aller se percher sur les arbres de nos jardins et de nos fermes. Dès lors, il est facile d'imaginer la suite. Un humain ingère de la salive de chauve-souris en mordant dans un fruit qui en est couvert, ou en tentant de chasser et de tuer cette visiteuse importune, s'expose aux microbes qui ont trouvé refuge dans ses tissus. C'est ainsi qu'une multitude de virus dont les chauves-souris sont porteuses, mais qui restent chez elles inoffensifs, parviennent à pénétrer des populations humaines. Citons par exemple Ebola, mais aussi Nipah, notamment en Malaisie ou au Bangladesh, ou Marburg, singulièrement en Afrique de l'Est. Ce phénomène est qualifié de « passage de la barrière d'espèces ». Pour peu qu'il se produise fréquemment, il peut permettre aux microbes issus des animaux de s'adapter à nos organismes et d'évoluer au point de devenir pathogènes. Il en va de même des maladies transmises par les moustiques, puisqu'un lien a été établi entre la survenue d'épidémies et la déforestation, à ceci près qu'il s'agit moins ici de la perte des habitats que de leur transformation. Avec les arbres, disparaissent la couche de feuilles mortes et les racines. L'eau et les sédiments ruissellent plus facilement sur ce sol dépouillé et désormais baigné de soleil, formant des flaques favorables à la reproduction des moustiques porteurs du paludisme. Selon une étude menée dans 12 pays, les espèces de moustiques vecteurs d'agents pathogènes humains sont deux fois plus nombreuses dans les zones déboisées que dans les forêts restées intactes. Danger de l'élevage industriel. La destruction des habitats agit également en modifiant les effectifs de diverses espèces, ce qui peut accroître le risque de propagation d'un agent pathogène. Un exemple, le virus du Nil occidental transporté par les oiseaux migrateurs. En Amérique du Nord, les populations d'oiseaux ont chuté de plus de 25% ces 50 dernières années sous l'effet de la perte des habitats et d'autres destructions. Mais toutes les espèces ne sont pas touchées de la même façon. Des oiseaux dits spécialistes d'un habitat, comme les piques ou les ralidés, ont été frappés plus durement que des généralistes comme les rouges-gorges et les corbeaux. Si les premiers sont des piètres vecteurs du virus du Nil occidental, les seconds, eux, en sont d'excellents. D'où une forte présence du virus parmi les oiseaux domestiques de la région et une probabilité croissante de voir un moustique piquer un oiseau infecté, puis un humain. Même phénomène s'agissant des maladies véhiculées par les tiques. En grignotant petit à petit les forêts du nord-est américain, le développement humain chasse des animaux comme les opossums qui contribuent à réguler la population des tiques, tout en laissant prospérer des espèces bien moins efficaces sur ce plan, comme la souris à pattes blanches et le cerf. Résultat, les maladies transmises par les tiques se répandent plus facilement. Parmi elles, la maladie de Lyme qui a fait sa première apparition aux États-Unis en 1975. Au cours des 20 dernières années, 7 nouveaux agents pathogènes portés par les tiques ont été identifiés. Les risques d'émergence de maladies ne sont pas accentués seulement par la perte des habitats, mais aussi par la façon dont on les remplace. Pour assouvir son appétit carnivore, l'homme a rasé une surface équivalente à celle du continent africain afin de nourrir et d'élever des bêtes destinées à l'abattage. Certaines d'entre elles empruntent ensuite les voies du commerce illégal ou sont vendues sur des marchés d'animaux vivants, wet markets. Là, des espèces qui ne se seraient sans doute jamais croisées dans la nature se retrouvent encagées côte à côte, et les microbes peuvent allègrement passer de l'une à l'autre. Ce type de développement, qui a déjà engendré en 2002-2003 le coronavirus responsable de l'épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS, est peut-être à l'origine du coronavirus inconnu qui nous assiège aujourd'hui. Mais bien plus nombreux sont les animaux qui évoluent au sein de notre système d'élevage industriel. Des centaines de milliers de bêtes entassées les unes sur les autres en attendant d'être conduites à l'abattoir. Voilà des conditions idéales pour que les microbes se muent en agents pathogènes mortels. Par exemple, le virus de la grippe aviaire, hébergé par le gibier d'eau, font des ravages dans les fermes remplies de poulets en captivité où ils mutent et deviennent plus virulents. Un processus si prévisible qu'il peut être reproduit en laboratoire. L'une de leurs souches, le H5N1, est transmissible à l'homme et tue plus de la moitié des individus infectés. En 2014, en Amérique du Nord, il a fallu abattre des dizaines de millions de volailles pour enrayer la propagation d'une autre de ces souches. Les montagnes de déjection produites par notre bétail offrent aux microbes d'origine animale d'autres occasions d'infecter les populations. Comme il y a infiniment plus de déchets que ne peuvent en absorber les terres agricoles sous forme d'engrais, ils finissent souvent par être stockés dans des fosses non étanches, un havre rêvé pour la bactérie Escherichia coli. Plus de la moitié des animaux enfermés dans les parcs d'engraissement américains en sont porteurs, mais elles y demeurent inoffensives. Chez les humains, en revanche, Escherichia coli provoque des diarrhées sanglantes, de la fièvre et peut entraîner des insuffisances rénales aiguës. Et comme il n'est pas rare que les déjections animales se déversent dans notre eau potable et nos aliments, 90 000 Américains sont contaminés chaque année. Bien que ce phénomène de mutation des microbes animaux en agents pathogènes humains s'accélère, il n'est pas nouveau. Son apparition date de la révolution néolithique quand l'être humain a commencé à détruire les habitats sauvages pour étendre les terres cultivées et à domestiquer les animaux pour en faire des bêtes de somme. En échange, les animaux nous ont offert quelques cadeaux empoisonnés. Nous devons la rougeole et la tuberculose aux vaches, la coqueluche aux cochons, la grippe aux canards. Le processus s'est poursuivi pendant l'expansion coloniale européenne. Au Congo, les voies ferrées et les villes construites par les colons belges ont permis à l'antivirus hébergé par les macaques de la région de parfaire son adaptation au corps humain. Au Bengale, les Britanniques ont empiété sur l'immense zone humide des Sundarbans pour développer la riziculture, exposant les habitants aux bactéries aquatiques présentes dans ces eaux saumâtres. Les pandémies causées par ces intrusions coloniales restent d'actualité. Le lentivirus du macaque est devenu le VIH. La bactérie aquatique des Sundarbans, désormais connue sous le nom de choléra, a déjà provoqué 7 pandémies à ce jour, l'épidémie la plus récente étant survenue en Haïti. Heureusement, dans la mesure où nous n'avons pas été des victimes passives de ce processus, nous pouvons aussi faire beaucoup pour réduire les risques d'émergence de ces microbes. Nous pouvons protéger les habitats sauvages pour faire en sorte que les animaux gardent leurs microbes au lieu de nous les transmettre, comme s'y efforce notamment le mouvement One Health. Nous pouvons mettre en place une surveillance étroite des milieux dans lesquels les microbes des animaux sont le plus susceptibles de se mêler à un agent pathogène humain, en tentant d'éliminer ceux qui montrent des velléités d'adaptation à notre organisme avant qu'ils ne déclenchent des épidémies. C'est précisément ce à quoi s'attellent depuis 10 ans les chercheurs du programme PREDICT, financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international, l'USAID. Ils ont déjà identifié plus de 900 nouveaux virus liés à l'extension de la empreinte humaine sur la planète, parmi lesquels des souches jusqu'alors inconnues de coronavirus comparables à celui du SRAS. Aujourd'hui, une nouvelle pandémie nous guette, et pas seulement à cause du Covid-19. Aux États-Unis, les efforts de l'administration Trump pour affranchir les industries extractives et l'ensemble des activités industrielles de toute réglementation ne pourront manquer d'aggraver la perte des habitats, favorisant le transfert microbien des animaux aux humains. Dans le même temps, le gouvernement américain compromet nos chances de repérer le prochain microbe avant qu'il ne se propage. En octobre 2019, il a décidé de mettre un terme au programme PREDICT. Enfin, début février 2020, il a annoncé sa volonté de réduire de 53% sa contribution au budget de l'Organisation mondiale de la santé. Comme l'a déclaré l'épidémiologiste Larry Bryant, les émergences de virus sont inévitables, pas les épidémies. Toutefois, nous ne serons épargnés par ces dernières qu'à condition de mettre autant de détermination à changer de politique que nous en avons mis à perturber la nature et la vie animale. Un grand merci à Nina Richard qui a prêté sa voix pour l'introduction de l'article de Sonia Chat. À la conception de l'émission, à la réalisation et à la mise en onde, Patrick Rion, Jean-Luc Rochat, Fabio Cattaneo. Éditeur responsable, Patrick Rion. En partenariat avec Radio Django, qui permet la diffusion des émissions de « Tout le monde est beau ». Baby, baby.